Bonjour Anne.
Bonjour Bruno.
Ton ouvrage dont nous allons parler aujourd'hui s'intitule « Une préhistoire des femmes ». Il a été publié en février 2026, si je ne me trompe pas, aux éditions La Découverte. C'est un livre volumineux, au format d'un essai. Il fait plus de 400 pages. Après une introduction de 7 pages, un prologue d'une trentaine de pages, ta réflexion se développe en plusieurs parties, des grandes parties intitulées « Enfance »,« Mariage et maternité »,« Alimentation et santé »,« Travail »,« Violence »,« Identité sociale ». Ces parties regroupent 15 chapitres et une conclusion. En plus, dans cet ouvrage, le lecteur va trouver des annexes. Elles ont dû représenter un vrai challenge pour toi. Mais il était très utile, ce challenge, et il est réussi, puisque tu présentes une chronologie simplifiée de 7 territoires eurasiatiques, du paléolithique moyen au néolithique, et je sais ô combien c'est difficile de faire une telle chronologie, et 4 cartes avec tous les sites mentionnés dans le texte, et une bibliographie conséquente. Je pense que les auditeurs qui vont suivre notre échange le comprennent déjà, c'est un livre dense, très dense, avec assez peu d'illustrations. Je crois, et c'est ma première question que je te pose, que l'ambition du livre est de proposer une lecture actualisée de ce que l'on sait, de ce que l'on peut déduire, inférer de la place des femmes dans les sociétés préhistoriques du paléolithique moyen, aux alentours d'il y a moins de 300 000 ans, il débute aux alentours d'il y a moins de 300 000 ans, jusqu'au néolithique, donc vers moins 4 000 ans, en Eurasie occidentale, et ceux des plages atlantiques à l'Oural. Il examine des aspects matériels du genre, les aspects matériels du genre perfait-il à l'archéologie. Je pense que c'était bien ça, ton ambition ?
C'est tout à fait ça, c'est l'ambition, effectivement. Il y avait deux questions principales qui ont assis cette ambition, je dirais. La première étant que l'on trouve souvent dans diverses publications, qu'elles soient en direction du grand public ou du public plus spécialisé, de chercheurs. La première question, c'est est-ce qu'il existait une domination masculine, des différences de genre, une hiérarchie des genres au paléolithique, donc chez les chasseurs-cueilleurs? Ça, c'était la première question que je me suis posée. Et la deuxième question était, est-ce que effectivement, comme on le voit aussi très fréquemment indiqué dans diverses publications, est-ce que cette domination masculine, cette hiérarchie des genres, s'est plutôt opérée à la fin de la préhistoire, c'est-à-dire avec le néolithique, le début de l'élevage et de l'agriculture? Donc c'était deux questions principales qui ont mené ma réflexion, en fait.
Et ces deux questions principales sont traitées avec ampleur, rigueur, mise en perspective dans ton ouvrage qui est passionnant à lire, tant il y a d'informations. Mais peut-être qu'avant d'échanger avec toi sur le livre, et moi j'ai réfléchi à un jeu de discussion entre nous un peu basé sur différents chapitres, j'aimerais que tu décrives aux auditeurs l'iconographie que tu as choisie pour la couverture de ce livre, à savoir une représentation féminine gravétienne de la grotte de Cussac. Et finalement, je me suis dit, outre le fait que cette couverture naturellement attire l'œil, au regard de cette synthèse que tu nous livres avec cet ouvrage, qu'est-ce que cette gravure t'apprend de cette femme gravétienne, de son histoire de vie, si naturellement on accepte l'hypothèse que la gravure est réaliste?
Alors, il me semble que je ne suis pas du tout spécialiste de l'art préhistorique, mais il me semble que en tout cas, le corps de la femme représentée est assez réaliste. On voit que c'est une femme qui a un certain âge, qui a eu certainement des enfants. Elle a un ventre un peu volumineux, comme les femmes d'un certain âge qui ont eu des enfants. Elle a des seins un peu pendants. Et je dirais qu'effectivement, cette femme résume, c'est pas vraiment le terme, mais en tout cas, représente un peu ce que j'ai voulu effectivement montrer dans le livre comme préhistoire des femmes.
D'ailleurs, c'est étonnant parce que tu le dis et c'est écrit dans ton ouvrage. On a finalement beaucoup de représentations féminines au paléolithique récent, et relativement bien moins de représentations masculines. Alors, comment Comment tu l'interprètes maintenant au regard de ce travail que tu as fait sur le genre dans la préhistoire?
Je serais présomptueuse d'interpréter ça parce que c'est pas vraiment ma spécialité, la représentation humaine. Mais quoi qu'il en soit, après avoir fait tout ce voyage dans l'univers préhistorique des femmes, il y a quand même quelque chose qui me frappe, comme tu le disais, c'est qu'il y a beaucoup de représentations féminines, il y a peu de représentations masculines. Les représentations féminines disent quelque chose de la société de la préhistoire, enfin des sociétés préhistoriques. Et je dirais que peut-être, même si c'est un sujet assez controversé, peut-être que la représentation féminine, que ce soit des corps de femmes, que ce soit des têtes de femmes, que ce soit aussi des vulves, parce qu'on a beaucoup de représentations de ce type-là, ça dit quelque chose sur le mental préhistorique qui était certainement assez tourné vers la naissance, vers la fécondité, vers ce type de choses qui est donc permis par les femmes dans la représentation, dans notre espèce en tout cas.
Merci beaucoup. Et ne crois-tu pas que finalement cette reconnaissance de tous ces symboles, comme tu l'as, enfin de représentation féminine qui se produit assez rapidement au sein de l'histoire de la préhistoire, n'ait pas été un des éléments qui a permis cette construction que tu montres comme étant très fragile, qui a été proposée par certains, que les femmes, dans une période ancienne de la préhistoire, au paléolithique, avaient peut-être une position sociale complètement différente et ne subissaient pas le joug des individus masculins comme elles le subiront plus tard.
Alors, pour moi, c'est pas parce qu'il y a des représentations féminines que les femmes de chair et de sang ont été plus spécialement considérées que les hommes. C'est pas ça, il n'y a pas de cause de sujet de cause à effet entre une représentation des femmes abondante et une bonne considération des femmes, une condition des femmes acceptable et de bonne tenue. Il n'y a pas de cause à effet entre ces deux faits là. Donc je ne pense pas que parce qu'on a beaucoup de femmes représentées que les femmes de la préhistoire étaient obligatoirement considérées comme étant par exemple les égales des hommes, voire même mises sur un piédestal. Et quand bien même ça serait ça, quand bien même on dirait que les femmes sont étaient mises sur un piédestal, honorées, magnifiées, enfin tout ce qu'on veut, être mise sur un piédestal, c'est pas être l'égale des hommes, c'est pas être l'égale des autres membres de la communauté qui ne sont pas sur ce piédestal, c'est être sur un piédestal. Et être sur un piédestal, ça provoque, ça induit un certain nombre de contraintes fortes qui font que si effectivement on est considéré comme étant exceptionnel, extraordinaire, etc., eh ben on n'est pas libre de son corps, ni de ses actes, ni de peut-être aussi de ses pensées.
Merci pour cette réponse très claire et très pertinente. Tu as fait un choix de donner des titres à tes chapitres qui ordonnent ton ouvrage, qui pourrait peut-être un peu surprendre. Il y a un chapitre qui s'appelle « Se marier, être mère ». Donc, quelque part, c'est des intitulés qu'on entendrait un petit peu plus dans un ouvrage d'anthropologie sociale ou d'ethnologie. Donc, c'est volontaire. Pourquoi tu as fait ce choix de nommer ces chapitres de cette façon ?
J'ai fait ce choix parce que mon arrière-plan, il est anthropologique. C'est-à-dire que je me suis plongée dans la littérature anthropologique sur le genre notamment, mais pas seulement, qui donne un certain nombre de grands axes qui permettent de dire qu'il y a des invariants dans les sociétés humaines. Ça, c'est très important pour moi. Et ces invariants, que l'on se situe chez des chasseurs-cueilleurs, que l'on se situe chez des agriculteurs, que l'on se situe dans des sociétés actuelles, eh ben, ces invariants concernent la parenté, concernent le mariage, l'union, si on préfère, entre les individus, concernent également le fait d'être l'objectif du mariage reste malgré tout la création d'une famille et donc la mise en œuvre d'enfants, enfin si on peut s'exprimer ainsi, c'est pas clair ce que je dis, mais bon.
Si ça va, on comprend très bien le fait d'avoir des enfants. Tu te maries, un homme et une femme se marient pour avoir une progéniture et pour que cette progéniture elle-même est une progéniture. C'est un comportement de mammifère, on va dire.
Voilà, c'est le comportement du mammifère et de toute façon, même si c'est quelque chose qui n'est pas intégralement naturel parce que se greffe par-dessus tout un tas de systèmes culturels et sociaux, il n'empêche que l'être humain, c'est le résultat d'une évolution biologique qui se caractérise par une partition sexuée de la procréation. C'est comme ça, et que cette partition sexuée entre les hommes et les femmes, elle donne lieu à un certain nombre de conditions sociales particulières qui sont communes, en tout cas pour un certain nombre d'entre elles, communes à l'ensemble des mammifères. Donc ça, c'est incontournable. Mais ça ne veut pas dire que l'être humain, puisqu'il est non seulement un être biologique, un être social, mais aussi un être culturel, il peut dépasser ses déterminismes biologiques. Et donc, je donne toujours un exemple, mais la pilule, donc c'est
la contraception.
Un moyen, la contraception, voilà, c'est un moyen de dépasser ce donné biologique qui était encore incontournable il y a quelques dizaines d'années, et qui est donc un gage de libération des femmes, quelque part, puisqu'elles choisissent d'être mère ou de ne pas l'être. Et donc, j'ai dit, enfin, dans mon livre, j'ai mis être mère et je n'ai pas mis devenir mère parce qu'on m'avait suggéré de mettre devenir mère. Non, à la préhistoire, je pense qu'elle n'avait pas le choix, même si certaines ont sans doute essayé de s'en libérer, mais en tout cas, elle n'avait pas un choix tout à fait comme on l'a aujourd'hui, ça c'est certain. Et donc, elles étaient mères parce que c'était un état qui arrivait consécutif à leur union avec un individu masculin, par exemple.
C'est certain. Et comme tu l'as souligné, l'invention de la pilule a représenté un point de basculement dans la vie des femmes de nos sociétés. Peut-être que précédemment, ça a été aussi l'invention de l'allumette qui a permis aussi aux femmes de ne plus être attachées au foyer, de conserver un feu, etc. C'est Bernard van der Merch, qui était professeur à Bordeaux, aimait surfer sur ces idées qui n'étaient pas habituelles dans nos cursus universitaires. Alors, je te propose qu'on poursuive l'échange en revenant sur certains de tes chapitres. Et le premier s'appelle « Les tout-petits préhistoriques, tous égaux au berceau ». Et comme tu as fait cette synthèse conséquente, hein, je l'ai dit, plus de 1000 références bibliographiques, y a une question que moi, je me pose, je ne me suis pas directement posé à la lecture de ce chapitre de ton livre, mais qui me questionne parce que c'est une période qui m'intéresse. Et je vais essayer de ne pas beaucoup parler de cette période qui m'intéresse, à savoir celle du Paléolithique moyen. Mais au Paléolithique moyen, on connaît à peu près une cinquantaine de sépultures primaires, donc d'enterrements volontaires de Néandertaliens. Il y en a 10% d'entre elles qui sont des sépultures de nouveau-nés, de périnatales. Pour le Gravettien, qui est beaucoup plus récent, pour les personnes qui nous écoutent, grosso modo, on va dire entre moins 34 000 ans et moins 25 000 ans, on a un tout petit peu plus de sépultures, une soixantaine, et simplement deux, voire trois de périnatales. Donc on a le sentiment que les très jeunes bébés décédant peu ou prou rapidement après la naissance n'ont pas fait l'objet d'un même traitement funéraire. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette différence entre une population néandertalienne qui inhumerait plus ces tout petits bébés que des humains modernes du Gravettien qui ont fait la magnifique représentation de cette femme, comme tu l'as dit, ayant eu des enfants à Cussac?
Alors, qu'est-ce qui... Là, c'est un petit peu une colle. Je cherche dans mon esprit ce que je pourrais bien te dire. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, on n'a plus enterré des petits bébés? Alors, pour la suite de la période, pour les périodes plus récentes, on sait que les tout petits bébés n'ont pas reçu le même traitement funéraire que des enfants plus grands. Est-ce que c'est à ce moment-là, au moment où l'homme anatomiquement moderne se développe, est-ce que c'est à ce moment-là qu'il se met lui aussi, le premier en tout cas, à faire subir aux petits-enfants nés et morts très jeunes, et quand je dis très jeunes, c'est aux alentours, c'est entre la naissance et 6 mois à peu près, est-ce que à ce moment-là, c'est pas à ce moment-là qu'on prend conscience qu'effectivement ces petits-enfants n'avaient peut-être pas un statut social équivalent aux autres membres de la communauté parce qu'ils n'avaient pas subi un certain nombre de rituels qui les leur permettaient d'être accueillis dans la communauté, dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs observées par l'ethnologie ou même chez les agriculteurs. Il y a un certain nombre de rituels qui consacrent le fait que le petit enfant devient un membre à part entière de la communauté. Et pour nos sociétés, c'est souvent le baptême, mais ça peut être tout à fait autre chose dans d'autres types de sociétés. Donc on consacre l'acceptation, enfin en tout cas l'entrée de cet individu dans la communauté des vivants. Et avant cela, il n'est pas considéré comme étant un humain à part entière. Et il est possible que c'est à partir des Gravettiens, enfin des premiers hommes anatomiquement modernes, que ce type de comportement s'est mis en place et qu'il n'existait peut-être pas au Paléolithique moyen. Et quand je dis Paléolithique moyen, je dis Néandertal.
Oui. Oui, tout à fait. Là, on parle de néandertalien parce qu'on n'a pas de sépulture de périnatal humain anatomiquement moderne du paléolithique moyen encore mis au jour. Alors moi, en lisant il y a longtemps des articles, je m'étais dit que peut-être que les conditions environnementales pouvaient avoir un poids, puisqu'on sait que dans des sociétés de primates vivant dans des conditions difficiles, les femelles sont capables aussi de faire durer le temps entre deux grossesses qu'elles ne... qu'elles sont obligées d'avoir, et peut-être qu'il y a à ce niveau-là aussi une différence liée à une démographie qui pouvait être différente, et que pour les Néandertaliens, la naissance d'un tout petit bébé était un événement qui avait une importance qui n'était peut-être déjà plus la même avec ces humains anatomiquement modernes du paléolithique récent, puisque malgré tout, ils étaient plus nombreux. Vu le nombre de sites qu'ils nous ont livrés, étaient plus nombreux.
Oui.
Et alors, justement, tu l'as écrit dans ton ouvrage, est-ce qu'on peut penser qu'avec ce paléolithique récent, on a déjà des statuts sociaux différents, une forme d'inégalité entre ces tout petits nourrissons? Et là, je pense à cette découverte fabuleuse du Gravettien en Autriche, à Krems, où on a deux périnatales, on dit périnatales, ce n'est pas une faute de français, qui sont inhumés, ce sont des jumeaux et il y a des éléments de parure avec eux. Donc, c'est des objets qui ont une forte valeur symbolique et ils sont déjà associés à ces enfants qui sont morts très rapidement après la naissance.
Est-ce que
ça traduit un statut social différent? Tu sais qu'à Bordeaux, on avait une collègue qui luttait scientifiquement beaucoup contre cette idée. Qui ne voyait pas d'association d'objets, que les objets dans une tombe ne traduisaient pas forcément une inégalité sociale.
Alors est-ce que le fait qu'il y ait beaucoup d'objets dans une tombe, ça traduit une inégalité sociale? Je pense que malheureusement, pour les périodes du paléolithique récent, gravettien et encore plus pour le magdalénien, où on a encore moins de sépultures, moi je suis assez d'avis de dire qu'effectivement les données sont tellement dispersées, tellement disparates, dispersées dans le temps, dispersées dans l'espace aussi, dire qu'effectivement, il y a évidemment des personnages qui ont plus de parure et qui sont enterrés avec plus de choses que d'autres, ça c'est évident. Mais est-ce que c'est significatif de différenciation sociale? Je pense que les données sont trop dispersées pour qu'on puisse l'affirmer. Voilà, moi c'est mon point de vue et j'ai tendance à suivre notre collègue de Bordeaux, aujourd'hui disparu, sur ce plan-là.
Alors justement, on va arriver à ton chapitre 2 qui s'intitule « Socialisation des filles et des garçons ». Et tu soulignes dans ce chapitre que si les rôles sexués n'étaient peut-être pas fixés à la naissance, tu me dis si je me trompe, hein, le genre a été très probablement représenté, le genre a probablement représenté une construction sociale progressive dans les sociétés préhistoriques. Alors la place des femmes, tu l'écris, tu le soulignes, tu le démontres, a fait l'objet de très nombreux débats, souvent fantasmés. Celle des filles, des individus de sexe féminin non matures sexuellement, on peut considérer que dans ces débats, il est quasiment encore presque inconnu, quelque part, quand on lit des choses. Et il est vrai qu'en dehors des outils de l'ADN ancien ou l'étude d'une protéine de l'émail, c'est très difficile de déterminer le sexe d'un individu immature, en tout cas pour les classes d'âge de l'enfance, voire même jusqu'à le milieu de l'adolescence. Mais avec toutes les données que tu as examinées pour écrire cet ouvrage, c'est réellement une compilation d'informations conséquentes, la plus importante qu'il m'a été amené de lire. Est-ce que tu peux nous dire si tu penses que dans les sociétés préhistoriques, paléolithique moyen, récent, mésolithique ou néolithique, il y avait une catégorie d'âge intermédiaire comme elle existe maintenant entre l'enfance et l'âge adulte, à savoir ce qu'on appelle nous l'adolescence quelque part, où peut se construire finalement quelque chose de très important dans les individus, où finalement les individus vont peut-être avoir une genrification différente de celle de leur sexe biologique, etc. Est-ce que tu penses que ça a pu exister, ça?
Moi, je pense que ça a existé, effectivement. L'âge exact, je ne sais pas, on a du mal à l'estimer, vu qu'on a du mal à évaluer le sexe et l'âge de tous ces enfants. Mais néanmoins, il n'y a pas de raison de considérer qu'à un certain moment, le garçon devient un garçon et la fille devient une fille, et que c'est le résultat d'une éducation qui part de la petite enfance, une fois que le petit sait marcher, on va dire. C'est généralement quand on regarde comment se passe le déroulement de l'enfance dans les sociétés traditionnelles ou pas traditionnelles d'ailleurs, il y a vraiment des étapes, c'est la marche, et puis ensuite, une fois que les dents définitives commencent à sortir, c'est une autre étape. Et ça, c'est vraiment des étapes, à mon avis, fondamentales. Il est possible, alors on a aussi ces étapes qui sont aux alentours donc de 1 an et de 7 ans, dans ces eaux-là, on a aussi le fait que l'enfant devient plus habile de ses mains, il contrôle un peu mieux sa motricité, et du coup, il est quand même capable d'apprendre un certain nombre de choses, et on a des éléments qui sont indirects, mais qui néanmoins, à mon avis, sont parlants. On a des objets miniatures qui peuvent être tout à fait des jouets d'enfants, voire des instruments pour les entraîner à telle ou telle activité. C'est le cas, par exemple, des tout petits propulseurs qu'on trouve dans le paléolithique récent. Il y a des grands propulseurs qui sont des propulseurs destinés sans doute aux adultes. Et puis, il y en a des tout petits qui ont été certainement destinés aux enfants, et pourquoi pas aux garçons, parce qu'on sait par ailleurs que la manipulation des armes létales, c'est quand même une affaire d'hommes. Donc on peut penser que les petits garçons s'entraînaient, les petits garçons préhistoriques du paléolithique récent au moins, s'entraînaient avec des outils miniatures, et donc ces petits propulseurs ou ces bâtons percés aussi. Il y a quelques bâtons percés de petite taille qui peuvent effectivement être des jouets d'enfants pour les faire jouer, bien sûr, mais aussi pour les entraîner à une activité. Donc il y a effectivement, à mon avis, des étapes qui correspondent à des apprentissages réguliers au cours de la vie. Alors pour les filles, on a plus de mal à déterminer quels ont été ces jeux et ces apprentissages. Ça, c'est évident, puisque il n'y a pas d'instrument particulier qui pourrait être mis en relation, en tout cas pour les périodes les plus anciennes, avec une activité féminine reconnue dans la préhistoire. Mais si on regarde les sociétés traditionnelles de chasseurs-cueilleurs, effectivement, les petites filles apprennent très tôt à s'occuper des plus petits qu'elles, à faire la cuisine, à aller avec leur mère faire de la cueillette, etc., etc. Donc on peut peut-être penser, en tout cas, sur la donnée qui concerne surtout les garçons, que l'équivalent était vrai pour les filles. Mais sans certitude, bien sûr.
Alors, quand ces filles rentrent dans l'âge adulte, on va dire, donc qui accompagnent leur maturité sexuelle, ton chapitre 3 parle du mariage, il s'intitule « Se marier ». Bon, je rappelle que le mariage, c'est une union conjugale à durée théoriquement illimitée, déterminée ou indéterminée, reconnue, encadrée par la société, alors d'une façon légale, d'une façon religieuse. Il y a des multiples modalités. Et relativement toujours à ces très importantes avancées méthodologiques de l'étude de l'ADN ancien qui ont permis d'obtenir des résultats réellement fabuleux sur les relations de parenté entre les individus et donc le fonctionnement patriarcal ou matriarcal des sociétés du passé, on a cette capacité de discuter maintenant de façon totalement inédite ce qui se passe au niveau de ces unions dans des groupes du passé. On a discuté souvent de l'endogamie des groupes néandertaliens, de petits groupes humains avec beaucoup d'endogamie. C'est vrai aussi pour les premiers humains anatomiquement modernes du paléolithique récent. Croisé avec des données isotopiques ou des données sur la mobilité de ces groupes humains, on peut aussi discuter finalement la mobilité des individus sexuellement matures, qu'ils soient masculins ou féminins. Alors, pour toi, est-ce que tu penses qu'on peut considérer que globalement, ce sont les femmes qui ont été très souvent, ou le plus souvent, les plus mobiles durant la préhistoire?
Oui. C'est ce que je pense, effectivement, et c'est ce que disent les données. Il y a un certain nombre de données, notamment génétiques, qui indiquent une plus grande diversification des gènes mitochondriaux, qui sont les gènes transmis par les mères, et qui, cette diversité indique une fluidité spatiale plus importante, et peuvent indiquer effectivement que les femmes avaient plus de mobilité que les hommes, sachant que par ailleurs, les gènes du père, le gène X,
chromosome X,
oui. Oui, le chromosome X, il est moins diversifié que le chromosome mitochondrial. Donc ça, c'est un premier élément. Il y a aussi d'autres éléments sur les analyses de strontium, c'est-à-dire les analyses des molécules chimiques qui sont transmises en absorbant de l'eau, en absorbant de diverses nourritures qui sont présentes dans l'environnement, qui se fixent sur les os et qui indique si l'individu qu'on analyse, les os de l'individu qu'on analyse, est soit local, soit non local. Et effectivement, on a beaucoup plus fréquemment, en tout cas pour les périodes où on a des données costauds à se mettre sous la dent, on a beaucoup plus fréquemment des femmes d'origine non locale que d'hommes d'origine non locales. Ils sont plutôt locaux. Ceci étant dit, il y a quand même des hommes qui bougent. Donc, c'est pas seulement et toujours et tout le temps les femmes qui se déplacent pour se marier, mais c'est quand même quelque chose d'assez constant tout au long de la préhistoire, même s'il y a d'autres modèles qui de temps à autre se font jour. Donc oui, les femmes bougent plus que les hommes, ça c'est certain, et ça peut s'expliquer par des mariages qui sont dits patrilocaux, c'est-à-dire que c'est la femme qui va se rend dans la localité de son mari pour donc se marier. Et effectivement, ça a l'air d'être une constante de la préhistoire de manière extrêmement extrêmement fréquente. Et moi, je pense qu'on peut répondre affirmativement à cette question.
Et là où c'est absolument extraordinaire, et je partage ton avis, c'est que cette mobilité des individus féminins qui vont plutôt rejoindre le groupe où vit leur conjoint existe dès le monde de Néandertal, avec pareil une grande diversité des haplotypes du chromosome X chez un groupe de Néandertaliens dans le nord de l'Espagne, et une moindre diversité des individus avec le chromosome Y. Donc quelque chose qui va perdurer, qui existe toujours pendant toute une partie de la préhistoire et existe à un moment assez ancien, ce qui nous permet de concevoir la complexité sociale de ces groupes humains qu'on n'avait pas jusqu'à présent. D'ailleurs, dans ton ouvrage, tu illustres ce chapitre avec un magnifique résultat obtenu par une collègue qui travaille à Bordeaux suite à une fouille d'un autre collègue de cette fameuse nécropole de Gurgis. Alors, si tu t'en souviens de ce résultat, je suppose que tu t'en souviens bien, mais je te demande de le commenter, je veux juste dire aux auditeurs que quelque part, j'abuse en disant ça, mais là, on a presque, c'est comme si nous avions des registres paroissiaux de ce cimetière néolithique qui a fonctionné sur 9 générations. Alors voilà, je t'en prie, dis à nos auditeurs ô combien ce résultat est fabuleux, ce travail est fabuleux.
Ce résultat est absolument fabuleux. Et effectivement, on voit, quand on regarde un peu cette étude, que d'une part, il y a des lignes de filiation qui sont entre des pères et des fils. On voit également que les femmes qui ont donné naissance à ces fils et à d'autres filles sont quasi systématiquement d'origine extérieure. On voit aussi que les jeunes filles, qu'à partir d'une quinzaine d'années, les jeunes filles ont sans doute émigré, se sont sans doute mariées ailleurs et on ne les trouve plus, on ne trouve plus de femmes qui ont plus de 15 ans, en tout cas d'origine locale, dans ce cimetière. Donc là, on a vraiment la vision d'une société patrilocale qui effectivement fait venir des femmes pour avoir des enfants et qui enterre ses fils sur place, alors que les filles, elles sont amenées à sans doute aller se marier ailleurs. Donc c'est quelque chose de très très intéressant et c'est la première fois qu'on met ça en évidence, en tout cas pour l'Europe, je crois même que de par le monde. Hein. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on a vraiment un instantané, donc c'est pas un instantané parce qu'il y a 7 générations, mais en tout cas, on voit que c'est un système qui se perdure dans la durée. C'est pas juste, voilà, à un moment donné, on a fait venir des femmes. Non, c'est vraiment un système, un véritable système en définitive. Et c'est néolithique. C'est néolithique, site néolithique. Mais ceci étant dit, le néolithique, il est intéressant parce qu'on a beaucoup de données. Mais si on regarde sur la longue durée, on voit quand même qu'il y a des choses qui s'ancrent dans la préhistoire la plus ancienne des Néandertals. Donc, au néolithique, on arrive vraiment à documenter et à dire voilà, c'était comme ça. Mais on voit bien que les choses ont été mises en place bien avant le néolithique.
Mise en place certainement, mais avec des grosses différences malgré tout, tu l'as déjà dit, hein, la résolution, notre capacité à analyser toutes ces données, bien sûr, plus on remonte le temps, moins c'est facile, mais clairement, les données sur l'ADN ancien ont montré aussi que les groupes d'un passé plus lointain avaient une endogamie beaucoup plus importante, qu'il pouvait y avoir des relations de conjoints-conjointes entre des membres très proches d'une même famille, etc. C'était lié probablement à l'isolement de ces groupes humains, les uns par rapport aux autres, sur des territoires immenses. C'est pas qu'ils voulaient être... qui voulait avoir beaucoup d'endogamie, c'est qu'il fallait qu'il y ait des gens aussi pour pouvoir se rencontrer. D'ailleurs, on reviendra sur un autre résultat à ce sujet. Donc, on arrivait finalement à ces jeunes, ce qu'on appellerait de jeunes adolescentes maintenant, mais qui étaient probablement à l'époque des femmes qui devaient devenir des mères, à ton chapitre 4, qui s'appelle donc « Être mère ». Et alors, si j'ai bien lu ce chapitre, tu soulignes toute la difficulté qu'il y a ou qu'il y aurait à expliquer seulement la division des activités entre les genres durant la préhistoire en raison de l'impact biologique fort que représentent les grossesses, les risques souvent de décès liés à l'accouchement, de la mère bien sûr. Et ma première question finalement, relativement à la synthèse que tu nous proposes, c'est est-ce que tu penses que la biologie liée à l'obstétrique a finalement toujours joué un rôle aussi... Elle a toujours joué un rôle réel, mais est-ce qu'elle explique tout dans ces sociétés,
Elle explique pas tout, mais elle explique quand même pas mal de choses. Il est évident que lorsqu'on regarde, par exemple, je ne sais pas si tu voulais me faire parler de ça, mais lorsqu'on regarde l'âge moyen de la parentalité entre les hommes et les femmes. Il y a une étude qui est sortie en 2003, je crois, qui 2023, pardon, qui montre que cet âge pour les femmes est constant sur les 250 000 années depuis nos jours. Et cet âge, il est aux alentours de 24 ans. Donc, c'est un âge moyen. Il y a eu plus jeune, plus vieux, etc. Et en revanche, ça, c'est pour les femmes. En revanche, pour les hommes, il y a plus de diversité dans les âges, mais il y a toujours un décalage entre les femmes et les hommes, avec pour les hommes un âge de la parentalité plus élevé que pour les femmes, entre 4 et 9 ans en moyenne. Et les hommes sont toujours plus âgés au moment où ils ont en moyenne leurs enfants. Donc il y a, comment dirais-je, cette différence, elle est constante au travers de la préhistoire, de l'histoire, et elle existe encore aujourd'hui. Les femmes sont bien souvent plus jeunes que les hommes lorsqu'elles ont leur premier enfant. Ça reste une constante. Et c'est aussi une manière de... Enfin, ça montre aussi que sans doute que les filles se mariaient tôt, avaient des enfants tôt, parce qu'il fallait exploiter la totalité de leur période de fécondité.
Oui, de vie, où elles peuvent avoir des enfants, tout simplement.
Voilà,
oui.
Tout simplement. Et donc, d'exploiter toute cette période-là, de manière à ce que l'espèce puisse effectivement se reproduire dans de bonnes conditions. Donc ça, c'est, à mon avis, c'est quelque chose de très important. Après, quand on devient mère, il y a la grossesse, il y a l'accouchement. L'accouchement, il était peut-être plus facile qu'aujourd'hui, mais il était quand même. Il y a un certain nombre de données qui montrent qu'il était quand même assez difficile. On a sans doute des femmes mortes en couche, ou en tout cas.
On en trouve d'ailleurs au paléolithique. Oui. On trouve des. Tout à fait. C'est assez rare. Pour le souligner, mais on a des squelettes, au moins en Italie, d'une femme morte en couche, ce qui veut dire que probablement il y avait beaucoup de femmes qui décédaient lors de l'accouchement.
Ouais. Donc il y a une mortalité, ce qui veut il y a eu certainement une mortalité des femmes lors de l'accouchement, avant ou après. Enfin, on a du mal véritablement à estimer les choses. Mais quoi qu'il en soit, c'est un danger d'être quand on est une femme, lorsqu'on a un enfant à ces périodes-là, ça peut être vécu aussi comme un danger, mais un danger dont on a du mal à se préserver, évidemment. Donc, je pense qu'elles ont eu aussi sans doute des velléités pour essayer de s'extraire de cette fatalité, mais que bien évidemment, elles n'ont pas toujours pu et que la maternité a été certainement un poids assez important dans leur vie. Si elles en réchappaient, il fallait nourrir l'enfant jusqu'au moins ces 6 mois avec un nourrissage au sein exclusif pendant 6 mois au moins. Là, les données sont vraiment constantes dans toute la préhistoire. L'allaitement exclusif durait au moins 6 mois. Et puis après, effectivement, il y a l'introduction de nourriture solide, progressive. Mais les tétées, elles restent quand même parfois assez longtemps dans la vie de l'enfant, puisqu'on a jusqu'à 4 ans d'allaitement, bien sûr, alterné avec une nourriture solide, mais en tout cas qui oblige les femmes à être présentes pour allaiter leurs enfants jusqu'à l'âge de 4 ans. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui... Donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement prégnant dans la vie d'une femme, je pense, à cette époque-là.
Et je pense que ça l'est d'autant plus que nous, qui avons la chance de vivre dans des sociétés occidentales riches et avec beaucoup de liberté individuelle, et il faut se battre pour la conserver naturellement, on a oublié que dans un passé assez récent, à peine un siècle, etc., en France, il y avait beaucoup de femmes qui vivaient 10 grossesses dans leur vie, voire plus. Je crois que c'est un groupe de femmes du 17e ou 18e siècle au Canada où la moyenne, un groupe chrétien, où la moyenne du nombre de grossesses était de 17. Moyenne, c'est absolument phénoménal. Ça veut dire que pendant toute sa vie de femme, les femmes étaient des mères, étaient enceintes, donnaient naissance, et puis hop, comme tu le dis, 6 mois d'allaitement, et puis on refaisait un bébé. C'est phénoménal le poids que ça peut représenter sur une société. Et c'est aussi la conséquence de règles sociales, religieuses de cette société qui sont imposées aux femmes, en tout cas pour ça. Mmh. Alors, justement, ces femmes qui pourtant sont des mères et qui ont énormément de poids dans la vie sociale de leur groupe, mais pas forcément un statut finalement trop privilégié dans ces sociétés. Tu consacres 3 chapitres, les chapitres 5, femmes, hommes et stratégie alimentaire au paléolithique, variabilité des régimes alimentaires au mésolithique, le grand tournant alimentaire du néolithique. Donc tu as 3 chapitres de ton ouvrage, c'est conséquent sur cette question de la différence d'alimentation entre les hommes et les femmes. Et à nouveau, là, on peut considérer qu'avec les années 80, où on a les premières analyses isotopiques qui existent dans nos domaines scientifiques, on a des résultats qui étaient là, qui étaient jusqu'alors quasiment inaccessibles. Pour pouvoir discuter ce sujet, on peut les croiser, on obtient aussi des résultats fabuleux avec à peu près en même temps finalement les outils construits par notre regretté collègue Jaroslav Brusek sur la diagnose sexuelle probabiliste qui permettait d'avoir enfin une diagnose sexuelle de qualité sur un individu de sexe adulte et pas simplement lié au hasard et à des traits de robustesse sur le crâne. Alors pour toi, si tu pourrais nous le résumer, là je te propose de remonter le temps. C'est comment tu considères que ce point de bascule qui a été la néolithisation, finalement, qu'est-ce qu'il a eu comme impact sur l'alimentation des humains et de la moitié d'entre eux, à savoir les femmes?
Ouais. Alors, pour le néolithique, il se produit une chose qui est contre-intuitive, c'est totalement, que les débuts du néolithique semblent en tout cas extrêmement difficiles sur le plan de l'alimentation et de la santé, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. C'est pas parce qu'on commence à produire sa nourriture que tout est rose et que tout tombe dans le bec de manière régulière. Non, il y a certainement eu des disettes, un certain nombre de réglages techniques à faire qui font qu'au début c'était difficile, et ça se voit notamment dans les états de santé des squelettes hommes et femmes que l'on retrouve dans différents endroits européens et qui appartiennent à cette première période du néolithique, ce néolithique ancien. Ça c'est la première chose. Et puis dans ce cadre-là, les hommes et les femmes ont parfois sans doute des difficultés à se nourrir, notamment les plus jeunes probablement. Mais cette difficulté, elle affecte, semble-t-il, de manière plus importante les femmes que les hommes. C'est-à-dire qu'on constate une baisse des statures avec le néolithique, qui s'accompagne de diverses pathologies qui sont pas forcément liées à l'alimentation, mais qui peuvent quand même qui peuvent fragiliser l'organisme et donc qui provoquent un certain nombre de maladies. Ça se voit dans les statures qui baissent globalement au néolithique, c'est-à-dire que les gens sont plus petits que la période précédente, et cette baisse affecte les femmes plus que les hommes. Donc peut-être que ce n'est pas quelque chose de volontaire, mais que on peut l'expliquer de différentes manières, bon, des difficultés alimentaires, mais aussi peut-être des grossesses plus fréquentes, puisqu'au néolithique, on a une augmentation de la population. Ça, c'est un trait tout à fait sûr et attesté. Donc, on a des grossesses plus fréquentes qui ont fait peut-être que les femmes avaient des organismes plus fragilisés et étaient en moins bonne santé, tout simplement, que les hommes. En plus mauvaise santé que les hommes, plus exactement. Donc voilà, c'est un paradoxe qui se développe au début du néolithique, mais qui va petit à petit s'arranger, puisque dans le cours du néolithique, il semblerait qu'effectivement hommes et femmes aient de meilleurs états de santé, peut-être aussi parce que ce sont des colons Ces néolithiques qui arrivent dans des terrains qu'ils ne connaissent pas forcément et donc ils ont peut-être un certain nombre de difficultés à cultiver la terre dans ces endroits-là et que ça répond pas exactement comme ils l'envisageaient et qu'il y a eu au début en tout cas un certain nombre de réglages qu'il a fallu faire avant que l'économie agricole se développe de manière plus florissante avec le néolithique moyen et après donc le néolithique ancien.
Tu as raison de souligner que dans tous les cas, la néolithisation, elle s'est pas faite d'une façon abrupte, comme on a tendance à souvent le résumer en pensant tiens, ils arrivent, ils savent déjà cultiver le blé, ils ont déjà des chèvres, des moutons et des porcs, et que pour toute une période du début du néolithique, il y a des périodes où les individus restent énormément chasseurs, cueilleurs, collecteurs, etc. Même si on a le droit, et c'est attesté archéologiquement, de penser que les humains d'avant le néolithique avaient aussi compris tout l'intérêt alimentaire de graminées, etc. Enfin, c'est démontré aussi dès le paléolithique moyen qu'il y a de la consommation importante de végétaux. Ce qui nous amène, alors c'est vrai que c'est très paradoxal de penser que cette période qu'on peut estimer comme étant une période, le néolithique, où on a un contrôle beaucoup plus important de la production, de ce qui permet aux gens, de la production de la ressource alimentaire, de sa conservation, de son stockage, de sa transformation, que ça ne s'accompagne pas forcément par une amélioration des conditions alimentaires, particulièrement des femmes, et qu'il y a toujours cet important décalage dans beaucoup de sociétés. Ce qui nous amène à tes chapitres 9, 10 et 11. Alors, excuse-moi, j'ai fait des lots. Peut-être que tu n'aurais pas fait les mêmes ensembles que moi, où on arrive à cette discussion où tu en parles tout le temps, mais où on arrive dans les discussions sur est-ce que finalement il y avait une genrification très importante, etc., dans ces sociétés du paléolithique, du mésolithique et du néolithique. Je pense que tu l'écris et tu le démontres dans ton ouvrage. On peut considérer que la division sexuelle des activités matérielles assurant la vie du groupe a très souvent existé, quasiment tout le temps, et qu'il s'agit que cette division, c'est plutôt la norme que l'exception. Dans beaucoup de chasseurs, dans beaucoup de sociétés de chasseurs-cueilleurs, tu l'as dit aussi tout à l'heure, ce sont les individus de genre masculin qui utilisent les armes d'armes létales. Il y a deux ou trois exceptions qui doivent être connues, mais guère dans le monde de l'archéologie. Et que le genre féminin ne le fait pas. Tu l'as écrit, et c'est aussi un très bon résultat obtenu par notre collègue Sébastien Villotte, que dès le paléolithique, il y a des différences qui très marquées entre des individus masculins et féminins qui montrent que ce sont que les hommes qui pratiquent des activités de lancer. C'est une pathologie au niveau de leur coude que Sébastien a très bien reconnue et illustrée. Et alors, pour moi, la question que j'aimerais te poser sur ces trois grandes périodes, c'est... Quelle principale différence tu verrais ou tu mettrais entre le paléolithique, le mésolithique et le néolithique sur les genres et les activités matérielles des groupes humains?
Alors, les différences, elles sont au niveau de la disponibilité des données qui sont importantes au néolithique, qui sont un petit peu moins nombreuses pour le mésolithique et qui sont plus rares encore pour le paléolithique moyen et récent. Ceci étant dit, même s'il y a moins de données, il y a une continuité. Il y a une continuité dans les activités des hommes, parce qu'on arrive vraiment bien à mettre en évidence certaines activités masculines grâce à ce que tu disais tout à l'heure sur les pathologies osseuses du coude droit notamment, et donc la manipulation des armes létales. Pour les femmes, c'est plutôt des activités bimanuelles avec les deux bras. Malheureusement, pour les périodes les plus anciennes, que paléolithique moyen, récent et aussi un peu mésolithique, on a du mal à caractériser ces activités. On ne sait pas trop ce qu'elles ont pu faire avec leurs deux bras, mis à part le fait qu'elles ont développé effectivement des activités bimanuelles, plus souvent que les hommes en tout cas. Pour le néolithique, on peut émettre des hypothèses. On peut voir que, on peut envisager, on peut imaginer que le néolithique est dans la période où l'agriculture se développe, donc il y a des champs de blé qu'il faut récolter et dont il faut réduire les grains en farine. Et on connaît les meules à grains du néolithique, qui sont des meules dormantes, qui sont de grandes dalles de grès qu'on pose par terre ou sur un support et sur lesquelles on va verser le grain que l'on moule ensuite avec une molette à bras et à deux bras. Et si cette activité est suffisante et pratiquée de manière suffisante, intensément et puis aussi fréquemment, eh bien elle peut effectivement provoquer des changements musculaires extrêmement importants, tels qu'on peut les voir sur notamment les femmes néolithiques qui ont des bras si musclés que l'auteur de l'étude a conclu qu'elles étaient bien aussi musclées que les rameuses d'aviron actuelles. Donc là, pour le néolithique, on arrive à peu près à mettre en relation l'activité bimanuelle et puis les modifications osseuses sur les deux bras avec une activité qui serait notamment la mouture des céréales. Mais c'est difficile d'aller plus loin et pour les périodes les plus anciennes, on a du mal. Ce que l'on sait en revanche, c'est que toujours dans les modifications osseuses, mais cette fois-ci sur les jambes, il semblerait que les hommes préhistoriques de Néandertal jusqu'à la fin du néolithique, ils aient pratiqué beaucoup la marche et les déplacements.
Oui, bien sûr.
Les femmes aussi, mais moins. Donc, elles se déplaçaient, mais sans doute moins loin que les hommes, en tout cas peut-être moins fréquemment. Mais il y a aussi, et ça c'est encore pour le néolithique qu'on peut le dire, il y a aussi des groupes de femmes qui ont énormément marché au néolithique, et d'autres qui sont restées peut-être assises toute leur vie. Donc il y a des choses différentes qui commencent à se dessiner, qu'on pressent, mais qu'on a du mal encore véritablement à cerner et puis à interpréter de manière un peu sérieuse, quoi.
Dans tous les cas, est-ce que je pense que tu le crois, en fait, tu vas me dire si je me trompe, finalement, l'accroissement de la diversité, de la complexité des activités matérielles qui assurent la vie, le bon fonctionnement d'un groupe, d'une société au néolithique, peut-être que ça a favorisé cet accroissement de la division sexuelle du travail à cette période-là, relativement à un paléolithique où finalement tout le monde devait être capable de tailler, de faire du feu, de trouver de la ressource alimentaire parce que, effectivement, les groupes étaient plus petits, la survie d'un groupe ne pouvait pas dépendre que d'une certaine catégorie d'individus. Et donc, ces différences, que finalement, c'est un petit peu étrange de penser que quand on a plus de ressources, plus de diversité, quelque part, ça s'accompagne peut-être d'une plus grande organisation de la société avec une division sexuelle du travail.
Oui.
Alors qu'on pourrait penser que ça devrait faire l'inverse, quelque part.
Oui, oui. Je pense quand même que au paléolithique, il y avait quand même une division du travail.
Ah oui, 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 il y en avait.
Je pense que c'est quand même une chose que l'on peut retenir. Ça se voit par différents aspects. On dit la manipulation des armes létales par les hommes. Je pense que ça, c'est un fait qu'on peut retenir. Et la manipulation des armes létales, notamment pour tuer du gros gibier. Par exemple, les mammouths, les rennes, les cerfs plus récemment, les sangliers, etc. Ceci dit, dans les listes de faune, on a ces grands animaux. On a aussi un certain nombre de petites espèces et de petites espèces qui sont très variables d'un site à l'autre. Et on pourrait penser que peut-être, comme dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs actuelles, ces petites espèces ont plutôt été chassées par les femmes. Ce qui irait avec le fait qu'elles se soient aussi déplacées pour la cueillette certainement, mais aussi peut-être pour une petite chasse. Donc, il y a cet aspect-là. Est-ce qu'il y a une plus grande division du travail avec le néolithique ? Il y a une plus grande production. On produit des paniers, on produit des vases, on produit des maisons, on produit le toit des maisons, on produit quoi d'autre
on produit, de la domestication d'animaux, de l'entretien de troupeaux, de la fermentation, de plein de choses.
Etc. Et il y a certainement, effectivement, des rôles qui ont été attribués aux uns et aux autres. Mais mis à part quelques tâches qu'on arrive à cerner, on ne sait pas très bien comment ces différentes tâches ont été attribuées sur le plan des hommes et des femmes. Est-ce qu'il y avait une spécialisation masculine pour, ou féminine pour le pâturage, mener les bêtes au pâturage ou des choses comme ça? On n'en sait rien du tout. Mais c'est probable. Mais pour le moment, on n'a pas d'informations là-dessus.
Alors, on arrive à tes chapitres 12 et 13. Tu as vu, j'ai sauté le chapitre 8 où tu parlais de Néandertal. Je l'ai fait exprès parce que je me suis dit que si je me lançais sur Néandertal, j'en parlerais trop. Donc, j'ai fait attention de ne pas trop parler de mes chers Néandertaliens. Mais il y a un chapitre 8 qui parle de Néandertal. Je voulais le dire au lecteur, excusez-moi, au futur lecteur et aux personnes qui vont écouter cet échange. Tes chapitres 12 et 13, ils s'intitulent « Blessures et traumatismes et les circonstances de la violence préhistorique ». Alors, dans un ouvrage comme ça, pourquoi est-ce que tu as tenu à faire deux chapitres sur ce sujet ?
Parce que on parle beaucoup des violences faites aux femmes. Moi, je pars aussi de la société actuelle hein, et de préoccupations qu'on a actuellement. Et il y a une question qui se pose, c'est est-ce que les femmes préhistoriques étaient, comme on peut le voir aujourd'hui, soumises à un certain nombre de violences plus fréquentes, moins fréquentes, quel type de violences, etc. Est-ce qu'il existait tout simplement des féminicides? C'est quelque chose qui m'a intéressé de regarder d'un peu plus près. Donc effectivement, c'est pour ça que j'ai tenté de me plonger dans la question et les résultats sont assez en demi-teinte, je dirais, parce que effectivement, d'abord, on voit que la violence, elle a existé à toutes les périodes de la préhistoire, que ce soit chez Néandertal, chez les premiers, au paléolithique récent, et puis au cours du mésolithique et du néolithique. Elle a existé. Sans doute qu'elle n'était pas permanente, ça c'est certain même. Sans doute qu'elle caractérisait plutôt certains groupes que d'autres, mais elle a existé. Et par rapport à cet ensemble-là, est-ce qu'on peut déterminer s'il y avait une violence particulière faite aux femmes ou faite par les femmes? Parce que la question aussi qu'on se pose aux côtés des féminicides, c'est est-ce que les femmes étaient des guerrières comme les hommes? Alors, et ça revient à l'histoire de la manipulation des armes létales. Je pense que les femmes, dans certains cas, on a des indices qui ne permettent pas de trancher, malheureusement, puisqu'on a des cas de population avec de nombreuses traces de conflits et de blessures par armes létales, par projectiles, notamment au Soudan, et que ces blessures affectent aussi bien les hommes que les femmes. Il n'y a pas de modèle de la position des blessures sur le corps des hommes et sur le corps des femmes. Ils ont reçu des flèches devant, derrière, sur les côtés. Enfin bref, tout est assez uniforme, entre guillemets. Donc là, on ne peut pas exclure l'hypothèse qu'à un moment donné, peut-être, les femmes ont participé au combat, d'une manière ou d'une autre. Mais si on regarde sur la longue durée et si on essaye de regarder justement les emplacements des blessures, on s'aperçoit qu'en moyenne, les femmes ont peu de blessures, ont moins de blessures que les hommes sur leur face, sur le corps de face. Peut-être, mais elles en ont plus sur l'arrière du corps, au niveau du crâne et sur le dos, on va dire, ce qui était leur dos. Donc on peut penser que dans certains cas, elles ont plutôt fui au moment de l'agression et elles ont été agressées par derrière. Alors que les hommes ont plus fréquemment ces blessures sur le devant de leur corps. Et donc, ils étaient peut-être investis dans des combats corps à corps. Donc voilà, peut-être que ça, c'est un résultat. Pour les féminicides, pour les violences faites aux femmes, les violences intracommunautaires faites aux femmes, on a extrêmement peu de données, et je dirais qu'il n'y en a qu'une seule qui est parlante. C'est ce qui a été mis en évidence à Çatalhöyük, qui est un site néolithique de l'Anatolie centrale.
Fabuleux.
Un site fabuleux, où il y a beaucoup de sépultures qui ont été fouillées et étudiées. Et on s'est aperçu que les femmes avaient des blessures de violence interpersonnelle tout au long de leur vie, alors que les hommes n'en avaient qu'à un moment donné de leur vie pendant leur jeunesse, et ensuite, ils en avaient beaucoup moins. Et l'idée qui ressort, c'est que peut-être que dans cette ville de Çatalhöyük, puisqu'il s'agit d'un vraiment très gros village, eh bien les femmes subissaient, en tout cas à un moment donné de l'existence de ce village, subissaient des violences tout au long de leur vie, qui pouvaient être des violences intracommunautaires régulières. Mais c'est le seul élément à ce jour qui permet de documenter cette idée-là. Les autres données sont moins explicites, puis peut-être qu'on les a pas regardées de cette manière-là non plus.
Oui, il faut aussi essayer de croiser, comme tu l'écris très bien dans ton ouvrage, et tu le montres combien la façon dont on est capable de mobiliser maintenant des outils analytiques différents pour pouvoir discuter de ces sujets apporte des réponses auxquelles on rêvait même pas il y a 20 ans. Pour les personnes qui vont nous écouter, qui liront ton livre, je rappelle que finalement, une des plus anciennes traces de mort violente liée à une agression interindividuelle, elle a près de 450 000 ans. Ce sont des pré-néandertaliens dans les sylvans de la Cima de los Huesos. Donc, ça fait longtemps que les humains tuent certains de leurs contemporains. Et alors, je ne sais pas si tu as eu le temps de la lire, parce que c'est une publication qui est récente. Elle a été publiée après que ton ouvrage ait été publié. On a un jeune doctorant à Pasea qui a travaillé sur une très jolie série de vestiges de néandertaliens d'un site belge qui s'appelle Goyé, où justement le croisement des données isotopiques, ADN ancien et aussi taphonomiques avec du cannibalisme, des traces de découpe, etc., de la fracturation sur l'os des ossements humains, montre que ce groupe de néandertaliens, eh bien, ils auraient sélectionné plutôt des individus féminins graciles ne venant pas du territoire pour être consommés, etc. Et mes collègues, et j'espère que je ne vais pas me faire engueuler demain parce que je résume mal leur travail, pensent que c'est peut-être lié au fait que, justement, sur ce territoire commencent à arriver d'autres groupes humains, à savoir les humains anatomiquement modernes, porteurs de ce qu'on appelle l'initial upper paléolithique. Et par rapport à ces conflits, etc., qu'est-ce que tu penses de cette publication de Bruno Boulestin et Dominique Ringambier sur ces individus du bas de Goulien ? Alors, le bas de Goulien, c'est aux alentours d'il y a moins, 22 000 ans, en Charente, dans le placard, où là, nos collègues ont proposé l'hypothèse d'un conflit armé, donc de presque de guerre au paléolithique, avec peut-être pour s'accaparer un territoire et ses ressources.
Alors, j'aurais tendance à dire que quand il y a cannibalisme, il y a plusieurs types de cannibalisme. Mais lorsqu'il s'agit d'exocannibalisme, c'est-à-dire qu'on consomme des individus qui ne sont pas du coin, c'est très fréquemment, en tout cas en ethno et en anthropologie, très fréquemment à l'issue de conflits guerriers, effectivement, où on se bagarre, où on se bat entre communautés, et le fait de manger l'ennemi, c'est lui faire un dernier outrage avant de passer à autre chose. Donc, sans doute que... Alors, je ne me souviens plus pour cette publication s'ils font état de strontium...
Oui, c'est de l'exocannibalisme.
C'est de l'exocannibalisme. Donc, moi, je pense qu'effectivement, c'est tout à fait recevable et que cette pratique, elle existe aussi chez Néandertal. Alors, je ne sais plus si c'est à la grotte Goyé à Goyé, où il y a effectivement aussi des traces de cannibalisme.
Oui, oui.
Et les individus cannibalisés étaient, d'après le strontium, les analyses de strontium, des individus non locaux.
Oui, tout
donc
à fait.
Là, c'est pareil. On a certainement aussi un témoignage de conflits guerriers entre communautés qui sont pas... Euh, qui sont, euh, qui sont pas d'accord entre elles, quoi. Et puis tout ça, ça se poursuit. On a... Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce cannibalisme, il va concerner des adultes, mais aussi des enfants. Oui. Et c'est le cas au placard, et c'est le cas aussi dans les exemples néolithiques qu'on a par la suite, où on a vraiment des sites extraordinaires et un peu inquiétants, mais enfin bon, c'est comme ça, où on a cannibalisé, mais des 500, enfin des milliers. Estimations entre 500 et 1000 individus, qu'il s'agisse de femmes, d'hommes. Et d'enfants, et d'enfants de tous les âges. Donc, on a vraiment massacré, parce qu'en plus, avant d'être mangés, ils étaient abattus, évidemment, et notamment par des coups de hache pour le néolithique sur la tête. Donc, on les a massacrés, on les a démembrés, on les a dépecés, on les a, je ne sais plus comment on dit, mais on a retiré la chair et on l'a fait cuire. On a coupé leur crâne pour en faire des calottes crâniennes et certainement peut-être pour boire. Et puis on a fait des festins et on a rejeté tous ces restes du festin dans des fosses ou dans des endroits divers. Et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement frappant qui semble concerner en fait... toute la préhistoire, en tout cas pour la période que j'ai traitée entre 300 000 et la fin du néolithique. C'est quelque chose de... Et ça concerne tout le monde. On veut annihiler une communauté.
Tout à fait. Je partage ton avis sur le fait que c'est quelque chose qui s'est produit très anciennement dans l'histoire des lignées humaines. Alors, ton chapitre 14 s'appelle « Représentation et affichage du genre ». Je l'ai dit au début de notre échange que, à titre personnel, je suis vraiment très impressionné par l'ambition de ton ouvrage et le succès de cette ambition. Et en plus que cette ambition, et tu l'as dit tout à l'heure, résonne bien avec beaucoup de changements forts qui sont en marche dans notre société occidentale. Et c'est heureux, société occidentale d'un pays riche, démocratique, oui. Bien sûr. Et la lecture de ce livre, alors désolé pour la question, j'espère qu'elle ne te dérangera pas, c'est que je me suis dit, malgré tout, que c'était vraiment très difficile de discuter du genre avec les données archéologiques et ou anthropologiques, et ou en se servant d'études de genre dans les sociétés contemporaines ou subcontemporaines. Et est-ce que finalement, cette volonté diachronique que tu as eue de partir du paléolithique moyen jusqu'au néolithique, ce n'était pas quelque chose d'un petit peu frustrant? Parce que pour le néolithique, effectivement, quand on a la chance d'avoir des nécropoles qui sont riches, avec beaucoup de matériel, des individus bien sexués, on peut aboutir à des résultats. Et que quand on remonte le temps, finalement, on ressent qu'il y a quelque chose, mais on n'en a pas la preuve, quelque part, archéologique ou scientifique.
Je dirais qu'en préhistoire, on n'a jamais de preuves absolues, même pour le néolithique.
Petit à petit, on réussit quand même à voir.
Oui, il y a des choses. On sait que, par exemple, les lames de silex ont plutôt travaillé tel matériau et que ces lames sont associées plutôt à des hommes ou des femmes, bon, effectivement. Mais ceci étant dit, tout de même, il y a. C'est frustrant, mais je ne m'attendais pas quand même à trouver autant de choses. Pour Néandertal, par exemple, on m'avait dit oui, tu te lances dans Néandertal, il n'y a rien, tu trouveras rien, on peut rien dire. Si, on peut quand même dire des choses. Alors, on ne peut pas dire des choses aussi documentées, aussi élaborées que l'on peut en dire pour le néolithique, c'est sûr, mais quand même. Ce qui m'a intéressé, moi, c'est la continuité, c'est le temps long. C'est de voir ce qu'on peut voir sur le temps long. Et c'est sûr qu'on a l'impression qu'il y a des choses qui se commencent à frémir à l'époque de Néandertal, vers 300 000 et puis après, et que ces choses vont petit à petit être de plus en plus nettes à mesure que l'on va dans le temps, que l'on remonte. Non, on ne remonte pas, que l'on descend dans le temps. Donc, moi, je trouve que c'est... c'est pas frustrant. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir plus de choses sur Néandertal et surtout sur le paléolithique récent, où là, on a vraiment très, très peu d'informations, très peu de sépultures et de squelettes. Donc, du coup, là, je me demande si Néandertal n'en a pas plus que...
En nombre, non, à l'échelle d'un immense territoire, je dirais des plaques, oui, atlantiques à l'Oural, non. Oui. Mais malgré, oui, tout, il y a une dynamique aussi, il faut qu'il y ait des chercheurs, etc. Et, oui, malheureusement, et c'est quelque chose contre lequel j'essaie de me battre, il faut qu'il y ait des personnes qui réinvestissent l'étude des restes humains du paléolithique récent et du méso en, oui, France. Voilà, et il y a un, oui, déficit d'activité scientifique sur ça. Alors, par rapport à cette question sur les représentations et l'affichage du genre, je voulais aussi t'interroger, on a déjà eu échangé sur ce sujet quand tu es venu à Bordeaux il n'y a pas si longtemps, sur le fait que, et c'est des choses que les gens ignorent assez souvent, qu'il y a beaucoup de sociétés où il y a plus que deux genres, jusqu'à 3, 4, 5 genres, etc. Et que ces individus qui appartiennent à ces genres ont souvent des positions sociales qui sont reconnues, qui sont acceptées, qui ont des prérogatives sociales qui sont spécifiques. Alors que dans nos sociétés occidentales, l'idée d'avoir plus de deux genres, ça a l'air de poser un vrai problème. Est-ce que tu penses qu'un jour, on aura cette possibilité de discuter cette multiplicité des genres dans les sociétés préhistoriques ?
Alors moi, je pense que d'ores et déjà, il y a quelques indices qui indiquent qu'il y avait une multiplicité des genres. On disait tout à l'heure que la manipulation des armes létales, c'est les hommes. Sauf qu'il existe quelques sépultures dans le mésolithique et dans le néolithique, où il y a des femmes avec des armes. Et tout l'enjeu, c'est de savoir à quoi ça correspond et qu'est-ce que ça veut dire. Il y en a aussi dans le paléolithique, puisqu'il y a eu un article qui est sorti en 2021, en 2020, sur une supposée femme préhistorique du Pérou qui était entourée d'armes. Et donc on a dit oui, les femmes de la préhistoire étaient des chasseuses, des guerrières comme les hommes. C'est trop simple de dire cette conclusion-là, parce que lorsqu'on regarde effectivement les données ethnographiques, il existe plusieurs genres, effectivement, bien souvent, des femmes se mettent à vivre comme des hommes, mais c'est pas forcément elles qui le choisissent. Je pense par exemple aux vierges jurées d'Albanie qui, compte tenu qu'à un moment donné de l'histoire de ce pays dans les années 40-50, il y a eu un déficit d'hommes, sans doute dû à la guerre, et qu'il a fallu désigner des femmes pour faire des hommes. Et elles vivaient comme les hommes, elles chassaient, elles fumaient, elles buvaient, elles faisaient des travaux d'hommes. Mais il fallait qu'elles aient une appétence, ça c'est sûr, mais elles ne l'ont pas forcément choisi. C'est quelque chose qui leur a été permis par la société des hommes. Pour d'autres sociétés, je ne sais pas trop quel était le... Il y a effectivement tous les berdaches qui sont des hommes-femmes ou des femmes-hommes qui, effectivement, eux se sentent vraiment, véritablement comme appartenant. Alors, c'est compliqué parce que est-ce que quelqu'un qui n'est pas un homme est forcément une femme ? Il y a des, il y a une discussion. Est-ce que, parce qu'on reste toujours dans la binarité, c'est-à-dire que même si, c'est quelque chose de différent, c'est, comme tu le disais, un troisième genre. Donc, il y a aussi ce cas de figure-là où il y a des gens qui décident parce qu'ils en ont envie de vivre de cette manière-là. Et ce sont ni des véritables hommes, ni de véritables femmes. C'est un troisième genre, ça existe. Peut-être que ces femmes en armes de la préhistoire, paléolithique, mésolithique et néolithique, sont des femmes qui ont agi comme des hommes, mais il faudrait pouvoir le vérifier. C'est ça le problème, c'est que est-ce qu'elles ont, par exemple, les modifications osseuses qui peuvent correspondre au tir à l'arc, comme on l'a mis en évidence sur un certain nombre d'hommes néolithiques. Est-ce qu'elles ont aussi une alimentation légèrement plus riche en nutriments d'origine animale, comme on l'a mis en évidence pour certains hommes, notamment néolithiques, mais pas seulement, qui sont aussi des hommes chasseurs et qui ont tiré à l'arc. Donc, si elles ont toutes ces caractéristiques, il n'y a aucune raison de ne pas envisager qu'elles aient pu jouer le rôle d'un... Enfin, le troisième genre, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, qu'elles ont eu un statut particulier... reconnu par la société qui fait que ce sont des femmes qui ont chassé ou fait la guerre comme les hommes. Mais pour le moment, on a juste le sexe et les objets avec. Il faudrait vraiment explorer cette question-là pour ce qu'elle est et regarder un peu comment ces femmes, la biographie en fait de ces femmes.
Ton ouvrage souligne bien cela et toutes ces difficultés. Je trouve qu'actuellement, dans notre société, et ce qui résonne, ton ouvrage résonne avec des problématiques de notre société, il y a un réel manque de connaissances, et c'est un peu paradoxal, sur cette diversité de sociétés humaines actuelles encore, enfin, qui vivent actuellement avec, bien sûr, plus que deux genres, et que tout ça, c'est parfaitement accepté socialement, ce sont des individus intégrés, etc., et qu'on a un immense intérêt à essayer de mieux connaître, parler de ces organisations, ces sociétés qui existent actuellement. Alors, ton chapitre 15, il s'appelle « Pouvoir et statut, richesse et inégalité ». Je pense qu'on va laisser les auditeurs qui achèteront ton livre le découvrir. Et puis après, tu conclus avec une conclusion qui s'appelle « Être une femme dans la préhistoire ». Ça résonne socialement aussi par rapport à ne serait-ce qu'à certaines chansons populaires des années 70. Mais je ne pense pas que c'est pour ça que tu as choisi le titre de cette conclusion. Tu n'avais pas fait le lien. Ok. C'est très bien de quasiment terminer donc sur cela, puisque je pense qu'il faut laisser aux auditeurs l'envie de découvrir ces deux derniers chapitres de ton livre. Et ma dernière question, parce que je pense qu'on a déjà beaucoup parlé, longuement parlé, ma dernière question, alors c'est peut-être pas une offre pour que tu fasses un autre livre, mais je me suis demandé à un moment si tu n'aurais pas eu envie de rajouter un chapitre dans cet ouvrage, et pourtant j'ai dit qu'on avait fait beaucoup avec un travail conséquent, sur les femmes préhistoriennes.
Ah oui, sur les femmes préhistoriennes, j'aurais pu, oui. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est véritablement me plonger dans la préhistoire. Mais c'est vrai que ça, derrière tout ça, il y a comment les femmes préhistoriennes font de la préhistoire. Ça, c'est sûr. Et pourquoi elles le font comme ça et pas autrement, les hypothèses qu'elles développent, et qui, en fait, on nourrit mon livre, même si c'est pour les contredire. Donc, effectivement, j'y avais pas pensé. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas ?
D'autant qu'on a de très beaux exemples de femmes préhistoriennes du début du XXe siècle qui ont été d'immenses personnalités scientifiques, qui ont occupé des postes prof à Cambridge. Par exemple, Dorothy Garrod, tu la connais. Et je pense que ce sont des exemples et qu'effectivement, la façon dont ces femmes ont pratiqué leur métier de préhistorienne est éclairant. Et, en tout cas, c'est un autre beau sujet. Et si tu t'y attaques, je ne doute pas que tu nous feras un autre livre absolument fabuleux que personne n'a encore écrit. Et je te remercie pour cet échange et j'espère que quand les personnes écouteront, verront notre échange, ils auront encore plus envie de lire ton livre et de s'attaquer à cette immense réflexion qu'est ce sujet de la place des femmes dans la préhistoire. Et je te remercie, Anne.
Merci Bruno.
Avec grand plaisir.
Sacré. Ben merci.